Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Nous recevons aujourd'hui le grand patron sénégalais Boubacar Camara. Bonjour Boubacar Camara.
Bonjour.
Boubacar Camara, vous êtes né le 27 juin 1958 à Dakar, vous me dites si je me trompe. Vous avez donc 58 ans. À 22 ans, vous êtes lieutenant de la marine marchande sénégalaise. Puis vous décrochez un brevet d'agent des douanes. Et on vous retrouve de 1987 à 1991 commandant d'un patrouilleur de surveillance maritime. 9 ans plus tard, vous êtes directeur général des douanes. Vous avez appris à naviguer.
Oui,
n'est-ce pas?
Absolument.
Comment expliquer une progression si rapide?
Enfin, c'était pas si rapide que ça. C'est
9 ans quand même.
9 ans, mais on a fait les échelons parce qu'on est passé de l'agent breveté au contrôleur et puis comme inspecteur des douanes d'abord, inspecteur d'État avant d'arriver à la douane.
Alors, au cours de votre carrière, vous avez aussi été à la tête de Sénégal Airlines, aux côtés de Karim Wane au ministère de la Coopération internationale, et vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration de Socosim Industries, filiale du groupe français Vicat. Socosim produit du ciment. Comment de douanier devient-on cimentier, Boubacar Camara?
Oui, vous savez, le métier de douanier mène à tout, hein. C'est justement après une carrière dans l'administration qu'on a shifté vers le privé. C'est en ce moment qu'on a rencontré le groupe, parce qu'on était très intéressé par l'industrie, un aspect qui nous a manqué dans notre carrière et on a pensé que c'était très important pour l'Afrique.
Vous parlez de vous à la troisième personne?
Oui, parce que je n'existe pas.
Comment ça?
Je n'existe pas, parce que je considère qu'en tant qu'agent de l'État, ayant une tradition de service public, je considère que nous sommes au service de nos États qui ont besoin des ressources pour se développer dans tous les secteurs.
Mais vous êtes dans le privé en ce moment?
Je suis dans le privé, mais justement, le privé constitue un moteur extrêmement important pour le développement en Afrique.
Alors je précise aussi, pour compléter votre portrait, que vous êtes inscrit au barreau de Paris, avocat donc. Au cours de cette émission, Frédéric Maury et moi-même vous interrogerons sur les questions économiques sénégalaises, mais nous irons au-delà bien sûr et parlerons Afrique de l'Ouest et grandes questions liées au développement. Première question posée par Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Alors vous êtes président du conseil d'administration de Socosim. Donc Socosim, c'est le leader sénégalais du ciment, un leader historique. Est-ce que le ciment, c'est un secteur en plein boom, on a l'impression, à la fois au Sénégal et aussi en Afrique de l'Ouest? Est-ce que justement le ciment, c'est un moteur de la croissance à la fois au Sénégal et dans tous les pays voisins?
Oui, le ciment est un secteur qui est en plein développement, surtout dans les pays où les ressources calcaires existent, comme le Sénégal. Et donc, Socosim Industries existe depuis 1946 et a été racheté par le groupe Vicat en 1999.
Le groupe Vicat, c'est quoi?
Le groupe Vicat, c'est un groupe cimentier français historique, familial. Louis Vicat, l'ancêtre de cette famille, a inventé le ciment artificiel. Et le groupe existe depuis 1853 et est implanté dans 11 pays avec 7000 employés. On est en Afrique, en Égypte, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Donc ce groupe a racheté Socosim Industries en 1999 et occupe a occupé la place seule pendant plusieurs années. Et maintenant, il y a 3 cimentiers et nous avons comme part de marché entre 60 et 65%.
Alors on va aller directement sur le terrain à Dakar avec un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs de Guillaume Thibault.
À coups de pioche, sans machine, Barthélémy et Antoine travaillent sur les fondations d'une petite bâtisse. Mais avant de couler la dalle, il faudra attendre. L'argent pour acheter le ciment n'est pas encore arrivé.
Ça coûte cher. On a baissé le prix, mais bon. Au début, je crois que le sac coûtait à 4 000. Avec la confiance, ça coûte à 3 000. Si c'est allé à 2 500, peut-être que ça irait mieux.
Vous, c'est quoi votre regard? C'est la révolution du ciment au Sénégal?
Il y a des gens comme moi pour acheter des ciments. C'est très difficile, quoi. Parce que maçon, c'est 3 500. La journée.
Et un sac de ciment coûte 3 000.
Oui, le sac de ciment coûte 3 000.
Juste à côté, c'est un immeuble qui sort de terre. Un panneau, danger, risque de chute d'homme, laisse les passants comme Abdou perplexes. Ce jeune ingénieur regarde la qualité des parpaings, car depuis toujours, le prix du ciment a poussé certains à tricher.
On ne respectait pas les normes. Si un sac de ciment peut fournir normalement 15 briques, il dit que fais-moi 30 briques. Après un an ou bien 6 mois, le bâtiment se casse et ça, c'est un problème.
Alioune et Mahmoud sortent du travail, ils tiennent à participer à ce débat sur le ciment et à s'adresser à ceux qui le vendent.
Il dit que tout le monde aspire à un logement, mais le prix du sac est cher. Et qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait les prix moins chers au Mali qu'au Sénégal, malgré qu'il y a 3 cimenteries. Ce n'est pas normal. Donc nous demandons à l'État, nous demandons à tous ses responsables de diminuer le prix par rapport aux conditions et au niveau de vie des Sénégalais.
Boubacar Camara, le ciment est trop cher au Sénégal?
Je pense que la tendance baissière du prix du ciment est constatée depuis maintenant 5 bonnes années. Et c'est une tendance qui va se maintenir compte tenu du fait qu'il y a une concurrence qui s'est développée. Et il est clair que c'est pas donné parce que le coût de fabrication du ciment est grevé par l'énergie. Et les coûts du facteur sont très élevés. Si, à part ça, je pense que la disponibilité du produit est telle que dans tous les coins du pays, on peut retrouver le ciment. Et je pense que c'est pas un facteur bloquant dans la construction, surtout des bâtiments, parce que ça ne représente que 10%.
Mais vous dites que la tendance baissière va se poursuivre. Vous voyez le prix du sac de ciment au Sénégal et ailleurs, dans la zone, à quel niveau? Dans 2 ans, par exemple?
Oh, mais je pense que la baisse aujourd'hui tourne autour de 5 à 10% et va se poursuivre. Oui, par an. Parce que de toutes les façons, avec la disponibilité du produit et la concurrence qu'il y a, les qualités qui sont mises en place, de toute façon, pour la qualité, il n'y a pas de problème. Les ciments qui sont produits en général sont de très bonne qualité. En tout cas, pour Socosim, nous sommes certifiés pour cela. Et je pense que cette tendance va se maintenir. Il n'y a pas de raison que ça ne baisse pas, sauf si vraiment il y a un renchérissement de l'énergie.
Frédéric Maury.
Vous êtes désormais 3 producteurs au Sénégal de ciment, hein, puisqu'il y a quelques mois, le Nigérian Dangote a ouvert sa cimenterie au Sénégal. Et vous vous battez, le groupe Vicat, Socosim en tout cas, se bat publiquement contre l'arrivée de Dangote. Alors, se battre publiquement contre l'arrivée de Dangote, c'est une manière pour vous de préserver un duopole et une situation qui vous permet de maîtriser le marché. En fait, vous êtes contre l'arrivée finalement d'un nouveau concurrent sur le marché?
Ah non, on n'est pas contre l'arrivée d'un nouveau concurrent. On ne saurait d'ailleurs être contre l'arrivée d'un nouveau concurrent. Nous sommes installés dans 11 pays et nous avons beaucoup de concurrents dans ces pays. Par contre, nous ne sommes pas d'accord sur les conditions dans lesquelles ce troisième cimentier s'est installé au Sénégal en violation de toutes les règles liées à l'environnement. Les études d'impact n'ont pas été effectuées avant l'arrivée. Il y a eu des problèmes liés au respect du code minier, etc. Donc nous avons d'ailleurs...
Vous dites que ce nouveau concurrent a bénéficié davantage par rapport à Socosim
et à Socosim et au ciment du Sahel. Ils ont bénéficié d'avantages qui effectivement ont une influence sur la concurrence, sur les prix, sur la façon... D'ailleurs, c'est étonnant que malgré l'arrivée du troisième cimentier, les baisses de prix qui étaient annoncées n'ont pas été obtenues. Il est venu s'aligner sur les prix, à peu près sur les prix qui existaient déjà sur le marché.
Vous pensez qu'il a bénéficié de passe-droit?
Évidemment, c'est évident. C'est pour cela que, d'ailleurs, le groupe Vicat a engagé une procédure arbitrale devant le Centre international de règlement des différends, le CERDI, et on en est à l'étape des échanges de mémoire.
Qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce que maintenant, l'usine de Dangote, elle existe, elle est en activité. Donc, quel est l'objectif de cette procédure et de ce combat que vous menez, puisque Dangote, il est là maintenant?
Alors, le premier objectif, c'est un combat de principe. Nous considérons, en tant qu'investisseurs sérieux et en tant qu'investisseurs respectant le Sénégal et respectant les pays dans lesquels nous sommes en général implantés, nous considérons que la régulation doit être très claire sur le principe. Deuxièmement, notre objectif, c'est de faire constater cette violation des règles parce que c'est un précédent dangereux, et de faire en sorte que la compensation ou les rectifications nécessaires soient prises en charge par l'État qui est responsable.
Mais quand vous parlez de quand je parlais de passe-droits tout à l'heure, vous avez répondu oui. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu des passe-droits? Il y a eu corruption de fonctionnaires?
Non, on ne peut pas dire qu'il y a corruption. On n'a pas de preuve de cela. Mais on ne comprend pas que deux cimentiers s'installent au Sénégal depuis des années en respectant toutes les règles et qu'un troisième vienne s'installer sans les respecter. C'est cette incompréhension qu'on veut clarifier et il nous fallait quelqu'un pour le faire. On a évidemment, on s'est adressé à l'État.
Et l'État vous a répondu quoi ?
Non, il faut constater qu'il y a eu un changement de régime entre-temps. Il y a une...
C'est-à-dire que l'usine, elle a été autorisée à l'époque de Ouad et que
du président Ouad.
Et elle a été ouverte à l'époque de Macky Sall.
Elle a été ouverte à l'époque du président Macky Sall. Et évidemment, l'État, en tant que tel, a été devant un problème complexe de voir une usine qui promet de faire les emplois, qui promet de baisser les prix, et un autre concurrent qui se dit ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, donc l'arbitrage était difficile. Et donc nous, on a été devant une instance neutre pour avoir un point de vue de droit, le respect du droit.
L'instance neutre dont vous parlez, c'est le CIRDI. C'est ça qui est donc c'est le tribunal arbitral international qui dépend de la Banque mondiale et qui règle les conflits entre les investisseurs et les États. Pourquoi est-ce que vous attaquez l'État du Sénégal et pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas Dangote directement ?
Non, on ne peut pas attaquer Dangote. On doit attaquer l'État du Sénégal, parce que c'est l'État du Sénégal qui a autorisé l'exploitation de cette usine et qui n'a pas pris les mesures qu'il fallait au moment où il le fallait pour que les règles de concurrence soient respectées.
Vous disiez tout à l'heure que les prix du ciment n'avaient pas baissé au Sénégal malgré l'arrivée d'un troisième concurrent. Comment expliquer que la concurrence ne fonctionne pas ? Est-ce que vous-même, vous n'auriez pas intérêt à baisser les prix ?
Oui, tout le monde a intérêt à baisser les prix. Tout dépend des coûts de sortie. Vous ne pouvez pas vendre à perte votre produit. Si les coûts de sortie du ciment sont élevés, vous êtes obligé de les intégrer d'abord. Vous pouvez réduire votre marge, vous pouvez réduire les marges des distributeurs, mais vous ne pouvez pas sacrifier votre produit.
Et c'est un secteur qui est quand même très rentable, le ciment. On parle souvent des télécoms, mais en fait, quand on regarde les chiffres des cimentiers, ils ne perdent pas d'argent en général.
Vous ne pouvez pas perdre de l'argent parce que vous ne produisez que ce que vous vendez. Vous ne produisez pas pour stocker et pour avoir des invendus. C'est en fonction des demandes que vous avez que vous organisez votre production.
Et les bénéfices faits dans le ciment en Afrique ne sont pas forcément supérieurs à ce qu'ils sont ailleurs dans le monde ?
Non, c'est des bénéfices qui sont relativement faibles, hein, parce qu'il y a des coûts qui sont très très élevés sur toute la chaîne. Hein. Déjà, il faut extraire le produit. Dans les carrières et tout, c'est toute une logistique. Il faut des fours pour les faire. Et aujourd'hui, ce qui nous permet de résister encore, c'est que nous utilisons beaucoup des combustibles secondaires, comme des pneus, des huiles mortes, des coques d'arachide, qui contribuent d'une façon décisive dans la production de l'énergie. Et donc, c'est le problème des coûts.
Mais pourtant, le coût de l'énergie au niveau mondial, il a beaucoup baissé ces derniers temps, puisque le pétrole, le gaz ont baissé.
Oui, le pétrole et le gaz, mais tout dépend des technologies qu'on a sur place pour produire le ciment. Parce que si vous utilisez le fuel, les centrales à fuel, ok, ça peut avoir de la répercussion. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est encore un vrai problème, les coûts de production.
Alors, vous semblez être seul dans ce combat Socosim contre l'arrivée de Dangote. Les ciments du Sahel, autre grand groupe, ne se joint pas à vous dans ce combat ou les politiques
Non, il y a beaucoup de gens, on n'est pas seul, parce que déjà, des populations du secteur ont été particulièrement inquiètes des conditions dans lesquelles la centrale à charbon qui venait d'être installée par l'un des concurrents pompé sur la nappe souterraine.
L'un des concurrents, quoi, c'est Dangote, dont vous parlez.
Oui, évidemment. Et ça a fait l'objet de manifestations de plusieurs ordres. Et l'autre concurrent a sa politique. Chacun a sa politique vis-à-vis
c'est un de ces concurrent qui aime bien la discrétion en général. Hein. Il aime pas
nous
trop
sommes
faire
également,
faire
nous sommes également très discrets. Nous sommes très respectueux de l'État du Sénégal. Nous avons d'excellentes relations avec les autorités, mais sur le principe, nous restons quand même dans un esprit d'un groupe international sérieux et très attaché.
Il y a un reproche que Dangote vous fait, qu'il a fait publiquement. Il dit grosso modo que le Sénégal reste soumis aux pressions extérieures, d'une puissance coloniale, et qu'en gros, finalement, le Sénégal reste dépendant de la France, et votre entreprise participerait de ça, et que lui, Dangote, c'est la nouvelle Afrique qui se prend en charge, qui investit. Alors vous, vous êtes le représentant de l'Afrique colonisée, c'est ça ?
Oui, mais ça, c'est un reproche qui s'adresse à l'État du Sénégal, qui doit en tirer les conséquences. Quand un investisseur vient dans votre pays et vous considère comme étant une colonie à la solde d'un autre État, je pense que ça...
Non, mais c'est un reproche qui fait à Sokosim directement, c'est pas un reproche qui fait au Sénégal.
Non,
il dit,
c'est un reproche qui s'adresse à l'État du Sénégal.
Vous pensez que l'État du Sénégal a eu peur de la puissance du groupe
Dangote? Non, l'État du Sénégal ne peut pas avoir peur de la puissance d'un groupe. L'État du Sénégal est un État qui s'est construit depuis plusieurs décennies sur la base de règles démocratiques, avec un héritage qui est là, et toutes les autorités ont toujours défendu le Sénégal en tant que tel.
Et est-ce qu'il reste dépendant des intérêts français? Parce que c'est
non,
ça. C'est ça le fond de ce que dit Dangote, c'est dire
dis,
le Sénégal
c'est
ne se prend pas
problème.
En main,
c'est-à-dire
le Sénégal est dépendant
de... Quand un industriel vient, un investisseur vient dans un pays et se permet de faire des observations de ce genre contre l'État qui l'accueille, il y a là un problème. Nous ne fonctionnons pas comme ça et nous ne nous sentons pas visés par cette affirmation.
Est-ce que vous avez une admiration pour Dangote? Parce que finalement, Dangote, c'est le symbole de l'Afrique qui émerge, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, il s'est fait en grande partie tout seul. Vous avez une admiration?
J'ai une admiration pour le Sénégal, je suis un patriote sénégalais, j'ai une admiration pour l'Afrique et pour tout ce qui se fait dans le cadre du développement, mais je considère que la gouvernance économique est essentiel en Afrique.
Qu'est-ce que vous appelez la gouvernance économique ?
Justement, la gouvernance économique, c'est d'abord la sécurité. Il faut sécuriser toutes les chaînes logistiques. Il faut faire en sorte qu'il y ait une sécurité juridique et judiciaire, donc un bon encadrement, que tout le monde respecte les mêmes règles, et qu'en cas de conflit, que les mécanismes de règlement des différends soient actionnés de façon transparente. Ça, c'est la gouvernance. Qu'il y ait une stabilité en cas pour la dévolution du pouvoir, et qu'il y ait également dans nos types de pays une continuité de l'État, quelles que soient les circonstances, pour que l'investissement puisse se faire. Et justement, cette gouvernance économique suppose que les investisseurs soient à l'aise, que le pays soit attractif, qu'il y ait une bonne productivité et une bonne compétitivité.
L'État sénégalais vous répond, vous n'avez qu'à exporter. S'il y a plus de producteurs au Sénégal, vous aurez des surplus de production, exportez-les.
Oui, non, on n'a pas de surplus de production à exporter. On dit, quelle que soit la situation, qu'il y ait 2, 3, 4, 5 ou 8 cimentiers, nous sommes une entreprise privée, préparé à la concurrence, nous mettons sur le marché un produit, nous mettons sur le marché un mécanisme de distribution et nous nous battons.
Est-ce que ça veut dire que vous avez réduit votre production depuis l'arrivée de Dangote ?
Non, c'est pas une réduction de production, c'est le marché qui dicte la production. C'est les parts de marché que vous avez, c'est les demandes que vous avez.
Okay. Est-ce que vous avez perdu des parts de marché ?
Mais bien sûr, avec l'arrivée de Dangote, il va grignoter des parts de marché chez nous, il va grignoter des parts de marché chez les autres.
Il y a pas de calcaire partout en Afrique de l'Ouest, vous le disiez tout à l'heure. Donc il y en a au Sénégal, l'État sénégalais peut dire produisons énormément pour aller au Mali, pour aller dans tous les pays
justement,
autour,
les calcaires, justement, ce n'est pas seulement pour les générations actuelles, c'est aussi pour les générations futures. Vous n'allez pas surproduire, surexploiter les carrières et laisser les générations futures sans possibilité d'avoir leur propre ciment et être obligé de l'importer.
Eh bien, Boubacar Camara, nous poursuivrons cette conversation dans quelques minutes. Cette première partie est en effet terminée. Nous vous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons le grand patron sénégalais Boubacar Camara, président du conseil d'administration de Socosim, l'une des trois compagnies cimentières installées au Sénégal. Au cours de la première partie de cette émission, Boubacar Camara, vous nous avez expliqué pourquoi vous étiez en conflit avec l'installation du groupe Dangote sur le territoire sénégalais. Parlons maintenant de la situation économique sénégalaise à proprement parler dans son ensemble. Depuis plusieurs années, la croissance ne dépasse pas les 4% par an, quand la Côte d'Ivoire fait le double, même plus, puisqu'elle atteint les 10% de croissance annuelle. Qu'est-ce qu'il manque au Sénégal pour arriver à ces chiffres, à ces scores? Est-ce que le Sénégal est en retard dans cette croissance économique?
Oui, la question de la croissance économique des pays en développement, surtout en Afrique, est une question très difficile, parce que les facteurs qui contribuent à cette croissance-là ne sont pas souvent suffisamment exploités. Si on prend l'exemple de l'agriculture, qui occupe une bonne partie de la population, elle n'est pas encore suffisamment mécanisée pour assurer une grande production qui permet d'avoir beaucoup de points de croissance. Ça, c'est extrêmement important. Et l'industrie, en général, héritée de l'ère coloniale, n'est pas souvent orientée dans le sens du soutien à l'agriculture ou bien du soutien à l'autosuffisance alimentaire.
Donc, vous n'arrivez toujours pas à être autosuffisant en riz, par exemple?
On n'est pas encore autosuffisant en riz, mais des efforts importants sont en train d'être réalisés et l'objectif est d'arriver à cette autosuffisance dans un délai très court. Des mesures importantes ont été prises par le gouvernement. Donc, je disais que le problème de la croissance, il est difficile parce que structurellement, les grands secteurs qui peuvent porter la croissance en touchant le maximum de population n'ont pas reçu les investissements nécessaires. L'agriculture aujourd'hui a reçu à peu près 5% des investissements. La télécommunication qui a porté la croissance pendant un certain nombre d'années ne permet pas d'avoir beaucoup d'emplois et l'industrie a été particulièrement secouée par les problèmes d'énergie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
par la pénurie,
les problèmes d'énergie, l'insuffisance des capacités, etc., les problèmes de réseau pour la distribution de l'électricité. Mais, ceci dit, il y a eu une progression importante. Aujourd'hui, on en est à 4-5% de croissance, avec un objectif de 7% de croissance pour 2017. C'est vrai que c'est encore faible, parce que le besoin d'investissement qui doit être comblé par le secteur privé n'est pas encore suffisamment comblé.
Frédéric Maury.
Le Sénégal n'a pas beaucoup de matières premières par rapport à d'autres pays africains. Il y a des recherches pétrolières, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Et au niveau des mines, c'est pas encore extraordinaire. Donc c'est vrai que vous avez souligné l'importance de l'agriculture et de l'industrie qui est quand même un peu sinistrée depuis quelques années au Sénégal. Tout ceci est relativement connu. Alors quel bilan vous faites de la politique économique du président actuel, qui est quand même maintenant président depuis quelques années? Et on a l'impression que cette politique économique du président Macky Sall, elle déçoit pas mal de Sénégalais. Est-ce que vous faites le même constat?
Avant de répondre, je reviens à la comparaison que vous avez faite avec la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire exporte beaucoup de matières premières, du café, du cacao, des produits qui lui permettent d'avoir effectivement énormément de devises et d'avoir des possibilités énormes que nous n'avons pas en termes de...
Mais le Sénégal a quelques richesses agricoles, par exemple.
Oui, la richesse agricole qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on exporte, c'est l'arachide.
C'est ça, c'est l'arachide.
Avec la crise mondiale de l'arachide, n'eût été aujourd'hui l'appel d'air des Chinois qui achètent l'arachide, on serait dans une situation difficile et c'est une culture...
Vous ne trouvez pas que c'est une filière qui a été très mal gérée aussi, parce que vous comprenez que le cacao... Mais la filière cacao en Côte d'Ivoire, à part les 10 années de crise, c'est une filière dans laquelle il y a eu toujours beaucoup d'investissements, beaucoup de recherches. La filière arachide au Sénégal, elle paraît un peu délaissée.
Tout dépend, pas délaissée. Il y a eu des erreurs dans l'organisation de la filière. Il n'y a pas eu suffisamment de connexion entre la culture de l'arachide et sa transformation.
Mais ceci... l'arachide est trop cher pour les Sénégalais. C'est, ouais, aussi, c'est mais, aussi une des raisons de
Mais justement, c'est un problème d'échelle. Si on arrive à avoir des champs d'arachide commandés par des industries de transformation et on met à la disposition des populations ce produit, il va être forcément moins cher. Mais si la transformation doit passer par l'étranger, réimporter avec un système fiscal qui ne facilite pas les choses, il y a un problème. Donc, ceci étant dit, il est clair que tant qu'on n'arrive pas à injecter dans l'économie suffisamment d'investissements privés pour avoir 2, 3 à 4% de points de croissance, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout qu'il y a une progression de la population qui vient bouffer les points de croissance. Tant que ça tourne autour de 2,4%, c'est bouffé par la croissance de la population.
Je reviens à ma question, parce que vous n'avez pas répondu. Quel bilan vous faites de la politique économique du président?
Nous n'avons pas à faire un bilan de la politique d'un gouvernement particulier. Nous pensons que le Sénégal a progressé depuis quelques années et aujourd'hui est sur une rampe qui, si elle est maintenue de façon stable...
Mais si la croissance était plus forte, vous auriez peut-être à souffrir moins de l'arrivée, par exemple, d'un troisième concurrent, la demande de ciment serait plus forte.
Mais oui, c'est ça. Si la croissance est forte, ça doit se répercuter forcément sur les entreprises et les ménages. Et c'est justement ces efforts-là que nous avons constatés et que les gouvernements successifs essaient de faire avec plus ou moins de bonheur.
Mais il a progressé sur quel point? Parce que vous dites le Sénégal a progressé, mais vous ne donnez pas d'exemple précis.
Non, attendez, les taux de croissance qu'on avait après 2003, on a eu des taux de croissance qui tournaient autour de 6%. Après, ça a baissé. Il y a eu la crise de 2008. Mm-hmm. Ensuite, les taux de croissance ont complètement chuté. On en était arrivé à 3%, parfois même 2%, avec un taux d'inflation très élevé, un endettement...
Et aujourd'hui, vous êtes à 4%.
Aujourd'hui, on est à 4-5%.
Voilà. C'est très bas pour un pays qui se développe.
C'est ce que je dis, c'est encore très bas. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? Améliorer l'investissement, développer l'attractivité. Un effort important est en train d'être fait depuis quelques années à travers l'investissement, à travers l'APIX, les classements Doing Business de la Banque mondiale le montrent très clairement. Il y a un problème de productivité, on ne travaille pas suffisamment, il y a un système de solidarité qui fait que beaucoup de personnes dépendent d'autres travailleurs, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de productivité, et ce qui fait finalement que, n'étant pas suffisamment compétitif, on se retrouve dans une situation où l'investisseur n'est pas attiré, l'investisseur a des contraintes sur le foncier, il a des contraintes sur l'énergie, il a des contraintes sur les ressources humaines. On a énormément de cerveaux qui ne sont pas en Afrique, qui sont à l'étranger, qui travaillent, qui sont bien installés. Les ressources sont là. On a des problèmes d'instabilité. Chaque fois qu'il y a des élections, on croise les bras en attendant que ces élections passent pour voir ce qu'il faut décider. Il n'y a pas d'instabilité. Quand il y a un changement, les dossiers se perdent entre les passations de services et tout. C'est ces questions-là qu'il faut régler. Et ça ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un régime ou de telle ou telle personne. Chacun vient jouer sa partition et je pense qu'il y a encore énormément de choses.
Aboubacar Camara, l'un des grands arguments économiques du président Macky Sall, c'est ce plan Sénégal émergent qu'il a lancé pour permettre au pays d'arriver à l'émergence, d'émerger du sous-développement. Ça fonctionne selon vous?
Je pense que c'est un plan très ambitieux. Comme je l'ai déjà dit, c'est un plan qui permet à l'horizon 2035 d'avoir une émergence dans un contexte solidaire, sans oublier les personnes vulnérables. Beaucoup d'efforts sont réalisés dans ce sens. Et le cadrage macroéconomique du Sénégal s'y prête beaucoup. On a beaucoup de points positifs depuis l'arrivée du président Macky Sall.
Je vous sens très prudent.
Le problème, c'est il y a des problèmes. Le premier problème que nous constatons, c'est la plateforme de gouvernance pour faire avancer ce plan-là. Des mécanismes ont été mis en place, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que les investissements se traduisent par des projets concrets qui sortent de terre dans un temps raisonnable.
Vous voulez dire que ça reste un plan sur le papier?
Non,
rien concret?
Non, c'est pas un plan sur le papier. Il y a des efforts qui sont réalisés, des projets qui sont en train de se dérouler. Mais le temps qu'on prend, et ça c'est caractéristique des pays sous-développés, on perd beaucoup de temps pour sortir les projets de terre. Donc c'est les équipes opérationnelles pour sortir ces projets qui ont souvent énormément de difficultés pour aller très vite. Et ça, ça se répercute sur les objectifs qu'on se fixe.
Alors j'ai demandé à un de vos compatriotes, l'économiste Chérif Saïf Sy, ce qu'il pensait de ce plan Sénégal émergent. Écoutez sa réponse.
Il apparaît également qu'il y a des difficultés dans la mobilisation des ressources. Cela ne se passe pas comme c'était espéré. Et il y a aussi peut-être d'autres problèmes liés à ce que j'ai entendu dire au FMI au mois d'avril dernier, que le Sénégal n'avait pas encore toutes les capacités pour gérer et manager ce plan émergent. C'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. D'abord, il y a un vide depuis les ajustements structurels dans les ministères, particulièrement le ministère de l'économie et des finances. Le FMI parlait de cadres compétents pour donc s'occuper des différents dossiers, étudier les projets et surtout les préparer. Un engagement pour un financement reste un engagement tant qu'il n'y a pas l'aboutissement de, disons, une bonne préparation des dossiers. La capacité également de manager chaque type de projet selon le fonds, le ministère de l'économie en charge du plan émergent n'avait pas toutes les capacités pour le faire. Le président de la République a essayé en tout cas de s'ouvrir sur d'autres compétences qui sont venues donner un coup de main dans ce plan d'émergent. Et je sais également qu'il y a toujours des efforts pour trouver des cabinets en Europe, même pour une bonne introduction dans le milieu financier et des affaires.
On fait trop appel aux cabinets internationaux pour ce plan, Boubacar Camara ?
Bon, je pense que l'expertise est mondiale et doit être reconnue et acceptée. Mais je pense que le Sénégal dispose de suffisamment de cadres compétents qui connaissent bien le pays pour mener à bien ses politiques publiques.
Ce plan, il a été conçu par un cabinet, en l'occurrence le cabinet McKinsey, qui est un cabinet international.
Je pense que le plan, oui, il y a eu l'intervention d'un cabinet, il y a eu un groupe également de compatriotes qui ont travaillé dessus, les cadres du ministère des Finances. C'est un plan qui a été très inclusif. Je considère que ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est est-ce que le plan est bon ? Est-ce que les objectifs sont bons ? Est-ce qu'on arrive à mobiliser les financements ? Le problème, c'est...
Est-ce que ces financements arrivent ?
Non, les financements arrivent. C'est des engagements qu'ils prennent et tout dépend de la planification qu'on a, la programmation du financement. S'il y a une contrepartie, que cette contrepartie soit prévue dans le budget à temps, que les projets soient là, les conditionnalités des projets soient respectées, s'il y a des études d'impact à faire, s'il y a des avant-projets.
Mais on est d'accord, que tous les pays obtiennent des financements.
Oui, mais justement, c'est cette procédure.
Ça, c'est de l'annonce publique et il y en a eu plein, mais le problème, c'est la mise en œuvre.
Mais c'est justement, ensuite, je suis en train de parler de la mise en œuvre.
Et donc,
mais
c'est là où ça bloque.
C'est là où on peut avoir des difficultés, parce que c'est un processus très long. De la programmation, la planification, jusqu'à l'inscription du projet au conseil d'administration, pour que ça soit validé et que la plateforme de gouvernance adéquate pour monter le projet, est-ce qu'il faut compter sur l'administration en tant que telle ? Par exemple, aujourd'hui, au Sénégal, il faut une réforme profonde de l'administration.
Ce que Chérif Saïf Sy disait, c'est que l'administration est faillite.
Non, l'administration n'est pas en faillite. On a subi, l'administration a subi énormément de réformes qui ne sont pas allées jusqu'au bout, qui n'ont pas touché toute la chaîne pour permettre de prendre en charge le projet. L'administration a beaucoup été concurrencée par des agences qui souvent se justifiaient, souvent ne se justifiaient pas, de sorte que on est obligé aujourd'hui pour chaque projet d'aller vers la plateforme de gouvernance adéquate.
Et qu'est-ce que vous appelez la plateforme de gouvernance ?
Par exemple, on décide que on veut faire un projet d'investissement au niveau de l'énergie. On met en place, par exemple, un secrétariat permanent de l'énergie avec les cadres qu'il faut, qui ont la responsabilité de piloter le projet et d'y aller jusqu'au bout. Et on définit les articulations entre ce secteur-là et, par exemple, les véhicules investissement. Qu'est-ce qui fait l'investissement ? Est-ce que Sénélec fait directement l'investissement ? Est-ce qu'on confie l'investissement à l'APIX ? Est-ce qu'on confie l'investissement à un autre organisme ? Ensuite, les fonds. D'où viennent les fonds ? Est-ce que ces fonds viennent du budget ou bien est-ce que c'est des fonds qui sont sécurisés à travers des fonds spéciaux prévus, alimentés par des taxes, etc. C'est ces questions techniques-là.
Mais ce que vous décrivez, c'est un processus quasiment qui paraît interminable. On a l'impression que ça prend des années. Regardez par exemple le cas du chemin de fer, qui est quand même un cas critique. Regardez ce qui est en train de se passer au Bénin, au Niger, où ils sont en train de construire ce chemin de fer rapidement, alors que le Sénégal, qui en a un depuis longtemps, entre le Sénégal et le Mali, ne parvient pas à le rénover, à le mettre aux normes, à aller plus vite. Comment vous expliquez qu'il y ait, dans la même région, finalement, deux vitesses aussi impressionnantes?
Non, il y a plusieurs vitesses. Par exemple, si nous prenons le cas du chemin de fer, il y a eu déjà des choix.
Quels choix?
Les choix qui ont été retenus en matière de chemin de fer, les choix les plus ambitieux, c'était de connecter le fer du Falémé, le chemin de fer et le port minéralier de Barigny. C'était un projet énorme, finalement, qui n'a pas été réalisé. Vous connaissez l'histoire de Koumba Ressources, de Mittal, ça finit par des arbitrages interminables. Ça n'a pas été fait. Les chemins de fer courts entre Dakar, Thiès, pour les passagers, n'ont pas été faits. Il y a eu des projets en pagaille. Mais le problème, c'est des choix d'abord. Et après, quand les choix ont été faits, c'est la réalisation. Aujourd'hui, des propositions sont précises, des financements recherchés, obtenus, et tout le problème, c'est la lenteur dans la mise en œuvre des projets.
Boubacar Camara, est-ce que concevoir des plans de développement pays par pays, cela a un sens? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux des plans de développement régionaux? Est-ce que la CEDEAO joue son rôle?
Bon, en fait, les plans de développement régionaux, ou en tout cas africains, c'est la solution. Le NEPAD, la conception du NEPAD montre très clairement.
Le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.
Exactement, montre qu'on ne peut pas sortir de cette option pour se développer. Mais ça n'empêche que chaque pays puisse avoir ses plans dans des secteurs précis. Aujourd'hui, le grand problème de l'Afrique, c'est les ressources. Nous avons énormément de ressources.
Vous parlez de ressources du sous-sol.
Minières, halieutiques, des ressources à tous les niveaux. Mais ces ressources ne sont pas sauvegardées. Ces ressources sont à la disposition des gouvernants. Elles ne sont pas sauvegardées souvent.
Qu'est-ce que vous appelez pas sauvegardées? Elles sont exploitées.
Aujourd'hui, la possibilité que les gouvernants ont d'aliéner ces ressources à travers des contrats qui sont souvent des contrats léoniens, c'est des possibilités énormes. Pas d'intervention du Parlement, pas de contrôle au niveau de l'intégration régionale, dans les organismes et tout. Il y a une liberté totale, une souveraineté totale des États sur les ressources. Du sol, du sous-sol, etc.
Et qu'est-ce que vous proposez?
Vous voulez un contrôle?
Je pense que le premier point sur lequel une intégration africaine réussie doit se faire dans le cadre sous-régional, c'est la mainmise sur les ressources. Que les États ne puissent pas aliéner les ressources n'importe comment.
La mainmise de qui?
Justement, il faut un contrôle mutuel entre les différents États sur les ressources et une information transparente des populations sur les contrats signés, sur la façon dont ces ressources sont aliénées. Deuxièmement, les ressources. On a énormément de ressources, je le disais tout à l'heure. Des personnels bien formés, des ressources humaines, mais qui sont implantés ailleurs. Nos cerveaux sont dehors. Il faut que ce cerveau-là vienne constituer une sorte de couche supplémentaire, une sorte d'iCloud pour se connecter aux ressources et faire redémarrer l'Afrique. Tant qu'on ne le fait pas à une échelle suffisamment importante, on va toujours piétiner pays par pays. Plan, chacun va se débrouiller de son côté, chacun va avoir son plan émergent avec ses petits objectifs et tout. Et finalement, les populations ne se retrouveront pas dans cette
situation. Cette idée, c'est un rêve?
Non, pas du tout. C'est un rêve, appelons-le comme on veut, mais un rêve réalisable. Quand vous me dites que les ressources sont là, quand vous me dites qu'il est possible de transformer, aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté à concevoir des projets. La preuve, le plan Sénégal émergent. Aucune difficulté à savoir que pour développer l'agriculture en Afrique, on connaît les atouts, les potentialités des pays. Aujourd'hui, il y a énormément de besoins d'investissement. En Afrique, on a des gares à construire, des routes, des chemins de fer, des ponts, etc. Aujourd'hui, la classe moyenne se développe en Afrique. Il y a une urbanisation. D'ici 2030, on aura 50% d'Africains qui vont vivre dans les villes. Une très grande urbanisation, il y a une connectivité qui est là, les gens sont très connectés, l'information circule, etc. Donc, les potentialités sont là, les atouts sont là. Il faut l'organiser, ce n'est pas un rêve
disons, c'est un rêve qu'il faut avoir.
Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre un peu plus d'indépendance par rapport aux puissances du Nord? Je pense par exemple à la zone franc. Est-ce que les pays d'Afrique de l'Ouest ne devraient pas rompre avec la Banque de France, avec le franc CFA?
Le président tchadien cet été a appelé à une réforme de la zone franc.
Oui, j'ai entendu, mais il ne faut pas inverser les choses. Il faut commencer par avoir un niveau de développement économique, un niveau d'autonomie, de vie économique, un niveau suffisamment important pour poser la question de la monnaie. On ne peut pas commencer par la monnaie.
Mais pourquoi est-ce que la zone franc serait la seule zone en Afrique qui serait comme ça liée à une monnaie?
Non, mais c'est historique. Vous savez bien que c'est
alors
historique.
Alors que tous les autres pays africains ont leur monnaie, gèrent leur monnaie, ont une politique monétaire. Là, c'est la seule zone en Afrique qui n'a pas de politique monétaire.
Non, mais non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique monétaire. C'est que la politique monétaire a épousé les contours de l'histoire, et aujourd'hui, compte tenu d'autres contraintes économiques, on n'arrive pas encore à poser cette question-là de façon optimale. Aujourd'hui, ce n'est pas le grand débat. Le grand débat, c'est comment faire pour booster l'économie de ces pays, avoir un niveau de développement.
Pourquoi est-ce que c'est un débat interdit, la monnaie? Parce que là, vous tournez autour du pot, mais pourquoi est-ce que c'est un débat interdit? Pourquoi est-ce que c'est un débat qu'on peut pas poser?
Ce n'est pas un débat interdit. C'est-à-dire qu'il faut que, les mécanismes qui permettent, par exemple, à mon paysan sénégalais de produire suffisamment de spéculation pour les exporter, se heurtent à la question de la monnaie pour que ça soit une question essentielle.
Mais c'est une question essentielle.
On est en amont.
C'est un instrument de compétitivité,
non,
une monnaie qui se dévalue. Laissez-moi terminer. Attendez, regardez les monnaies du Kenya, les monnaies du Nigeria, qui se sont massivement dévaluées. C'est un instrument de compétitivité. Le franc CFA, lui, reste arrimé à l'euro, quelle que soit la situation économique interne. Pourquoi ne pas reprendre la main sur la monnaie de
cette
zone?
Non, on ne peut pas commencer par la monnaie. Il faut commencer par l'économie d'abord, réelle. C'est parce que justement ces pays se sont développés que ce besoin de la monnaie s'est posé à un moment donné. Et ça va se poser. Ce débat va se poser. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de commencer par faire un débat sur la monnaie. Non, le débat c'est comment faire pour rendre attractif le pays, que les investissements soient là, que ça soit compétitif, que les gens produisent. Et maintenant, à partir de ce moment-là, la question de la monnaie va se poser de façon très claire.
Frédéric Maury, nous enchaînons sur
l'affaire Ouad.
Voilà.
Parce que vous avez travaillé avec Karim Ouad quelques années, donc vous étiez secrétaire général, je crois, au ministère de la Coopération quand Karim Ouad était ministre. Qu'est-ce que vous pensez de sa déchéance et de sa condamnation devant la CREI?
Bon, j'ai été effectivement secrétaire général du ministère qui était dirigé par le ministre d'État Karim Ouad. Et on a eu une expérience de 3 années. Sur des projets extrêmement intéressants parce qu'on avait beaucoup de secteurs, les transports aériens, vous avez parlé tantôt de Sénégal Airlines, on avait les infrastructures, on avait la coopération internationale et on avait l'énergie à partir de 2010. Et il y avait une équipe composée de gens extrêmement compétents et on a essayé de faire avancer vraiment tous ces projets-là. Et nous pensons que Karim Ouad a été un excellent ministre d'État qui a travaillé dans son ministère dans des conditions tout à fait honorables sur les dossiers et tout, et que les règles étaient particulièrement respectées. On a veillé à ça en tant qu'agent de l'État. C'est clair. Et donc
vous êtes surpris par sa condamnation d'une certaine manière?
Non, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Nous ne savons pas. Le Karim Ouad que nous connaissons, c'est de ce Karim Ouad qu'on veut parler. Le Karim Ouad.
Celui que vous connaissez n'est pas celui qui.
Ouais, nous, le Karim Ouad.
De la fin, ouais. On va dire.
Le Karim Ouad qu'on a connu, c'est le Karim Ouad, ministre d'État, qui a travaillé avec nous dans d'excellentes conditions, qui est un professionnel. Qui a été un bon leader dans le ministère.
Alors,
ça c'est en dehors de la politique.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, Boubacar Camara. Je voudrais revenir vers le début de votre carrière, vers le douanier. Vous avez donc dirigé les douanes du Sénégal. Quel bilan faites-vous des douanes en zone franc? Parce qu'il y a beaucoup de contrebande. Les frontières sont des vrais passoires. Je pense aux importations de sucre, d'huile de palme qui se font en contrebande. En quelques mots, est-ce que ça fonctionne, les services des douanes dans la région, et au Sénégal en particulier?
Oui, en général, les services des douanes jouent un rôle très important dans la collecte des recettes. Et Si ça ne fonctionnait pas très bien, il n'arriverait pas à ce niveau de recette-là, qui progresse assez régulièrement, malgré quelques difficultés qu'on peut rencontrer. Mais on a un vrai problème de la gestion des frontières dans nos types de pays. Hein. Les frontières sont généralement très peu surveillées parce que les douanes ont très peu de moyens. Et ça doit être contourné par l'organisation du renseignement, l'automatisation, la modernisation des douanes de façon générale. Mais en général, ils ont des ressources humaines qui sont de qualité, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens pour mener les réformes à bout. Donc, et c'est ça le grand problème, ce n'est pas seulement pour les douanes. Les réformes doivent être menées à bout.
À terme. C'est ce qu'on retiendra de votre message, Boubacar Camara. Les États africains doivent s'unir, se moderniser, aller plus vite dans les processus de décision. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Boubacar Camara, d'avoir été notre invité. Les meilleurs passages de cette émission sont à lire dans les colonnes de Jeune Afrique. Vous pouvez aussi voir la vidéo intégrale de l'émission sur les sites de RFI et de Jeune Afrique. Guillaume Munier était à la réalisation radio. Cyril Etienne, Romain Ferré, Dominique Fian, Laure Tamperville étaient derrière les caméras. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel écho d'ici, écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.